France Culture, bienvenue à tous. Il est 12h31. Avec un peu de retard, l'heure pour vous de retrouver Thomas Cluzel pour le journal. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Le régime de Bachar el-Assad aurait-il eu de nouveaux recours aux armes chimiques? C'est du moins ce qu'annoncent les États-Unis, lesquels prétendent avoir eu des informations sur une présumée attaque au chlore dimanche dernier sur la province d'Idlib, le dernier bastion rebelle du pays. En Libye, l'impasse militaire perdure, pire encore puisque les combats ont même gagné en intensité hier au sud de la capitale Tripoli. Le directeur général du groupe Qatari, Bin, mis en examen pour corruption active, l'homme proche du président du Paris Saint-Germain est soupçonné d'avoir participé à la négociation de pots de vin en vue de l'obtention par le Qatar de l'Organisation des Mondiaux d'Athlétisme. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a appelé ce matin la multinationale américaine General Electric à ne pas fermer de site en France. En revanche, interrogé sur la suppression d'un millier d'emplois dans l'usine de Belfort, qui en compte 4300, le ministre n'a pas confirmé. Si depuis son élection, Donald Trump aura toujours limité son engagement en Syrie à la lutte anti-djihadiste, le président américain aura fait toutefois deux exceptions depuis son entrée à la Maison-Blanche, une première fois en avril 2017 et puis une seconde un an plus tard, tout en prenant le contre-pied de son prédécesseur Barack Obama, lequel avait renoncé à réagir à la ligne rouge de l'emploi d'armes chimiques qu'il avait pourtant lui-même fixé. Donald Trump avait lancé deux offensives aériennes, à chaque fois en riposte à des attaques chimiques perpétrées par le régime de Damas. Or, quand bien même ces frappes, strictement ciblées et ponctuelles, auront été sans conséquences véritables pour le gouvernement de Bachar el-Assad, le nouvel avertissement lancé par l'administration américaine n'en constitue pas moins une sérieuse menace. Aurélien Colli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant dans la région. Hier, le département d'État américain a dit disposer d'éléments laissant suggérer que le régime de Damas aurait de nouveau eu recours à l'arme chimique pour une attaque menée dimanche dernier dans la province d'Idlib, et ce dans le cadre de la violente campagne actuellement menée par les forces pro-gouvernementales en violation du cessez-le-feu censé protéger plusieurs millions de civils dans cette zone dite de désescalade.
Oui Thomas, l'attaque aurait eu lieu dimanche matin dans la localité de Kabani, à la limite en fait entre la province d'Idlib aux mains des insurgés, celle de Latakié à l'ouest, fief de Bachar al-Assad, et celle de Hama au sud, où les forces gouvernementales et l'aviation russe sont à l'offensive pour reconquérir du terrain, comme elles le font aussi d'ailleurs depuis mi-avril dans la zone tampon qui entoure Idlib et qui est censée être protégée par l'accord de septembre dernier entre Russie, soutien du régime, et Turquie, soutien des insurgés modérés d'Idlib. Alors le régime syrien a formellement démenti tout usage d'armes chimiques. Le ministre russe de la Défense parle même d'un montage signé de spécialistes formés par des agents américains. Et même l'Observatoire syrien des droits de l'homme et les secouristes bénévoles syriens, les fameux casques blancs, qui ont dénoncé dans le passé d'autres attaques chimiques du régime, ne confirment rien pour l'instant. En attendant d'y voir plus clair, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette mise en garde, Washington refait entendre sa voix sur Idlib, après avoir donné le sentiment qu'en Syrie, seule la défaite de Daesh à l'Est l'intéressait. Après aussi des semaines d'escalade avec l'Iran qui ont détourné l'attention d'Idlib, une période que le régime de Bachar al-Assad et son allié russe exploitent pour reconquérir des secteurs de la zone tampon au sud de la province, en profitant aussi de la faiblesse de la Turquie, garante de la zone tampon côté insurgé, mais incapable de contrôler les rebelles islamistes qui dominent aujourd'hui la province d'Idlib.
Merci Aurélien Colli en direct de Beyrouth. En Libye, les combats ont gagné en intensité hier au sud de la capitale où plus de 6 semaines après le début de son assaut, le maréchal Haftar, l'homme fort de l'est du pays, fait toujours face à la résistance des forces du gouvernement d'Union Nationale reconnues par la communauté internationale. Des tirs à l'artillerie lourde ont notamment été entendus depuis le centre de Tripoli. Il s'agit là des affrontements les plus violents depuis le début du Ramadan, c'était le 6 mai dernier. Les précisions d'Omar Waman.
Les combats se déroulent dans les quartiers du sud de la capitale, une zone résidentielle aujourd'hui vidée de ses habitants. On compte à ce jour près de 70 000 déplacés. L'objectif pour les forces du maréchal Haftar, percer les lignes de défense des forces loyalistes jusqu'ici figées. Mais ce sont au contraire les milices qui défendent la capitale qui ont avancé ces dernières heures, notamment dans le quartier de Salah ad-Din, mais seulement sur 3 kilomètres. L'homme fort de l'Est libyen semble avoir décidé d'accélérer les opérations militaires après l'annonce par les milices de Tripoli de l'arrivée dans le port de la capitale d'un bateau chargé notamment de blindés fournis par la Turquie, un des parrains du gouvernement d'Union nationale reconnu par les Nations Unies. Une nouvelle qui aurait mis le maréchal Haftar dans une colère noire, une énième violation de l'embargo sur les armes décrété en 2011. Sur le plan diplomatique, la France a proposé la création d'une zone tampon prélude à un cessez-le-feu sous supervision internationale, une proposition rejetée par Fayez al-Sarraj, le premier ministre libyen qui siège à Tripoli, qui considère que cela viendrait à entériner les avancées des forces du maréchal Haftar. Il réclame un retrait sans condition avant de passer à la table des négociations.
Alors, depuis le début de l'assaut des forces du maréchal Haftar, c'était le 4 avril, les combats ont déjà fait plus de 500 morts et près de 2500 blessés. Jusqu'ici, tous les appels de la communauté internationale à un cessez-le-feu ont été ignorés par les deux camps, d'autant que face à ce conflit, le positionnement des Occidentaux, États-Unis en tête, mais aussi de la Russie et de la France, reste ambigu. Après avoir reçu il y a 10 jours le Premier ministre Fayez al-Sarraj, lequel accuse Paris de soutenir son rival, le maréchal Haftar, justement, doit être reçu à son tour aujourd'hui par Emmanuel Macron. En Indonésie, ainsi que les autorités le craignaient, au moins 6 personnes ont été tuées, 200 autres blessées hier lors de heurts à Jakarta, après l'annonce de la réélection du président sortant, Widodo, face à son adversaire, l'ex-général Suyanto. Et puis, aux Philippines, le bouillant chef de l'État, Rodrigo Duterte, consolide son pouvoir à l'issue des élections de mi-mandat. Ses alliés ont pris le contrôle du Sénat, traditionnellement considéré comme plus indépendant face au pouvoir exécutif, offrant ainsi au président la dernière institution qui résistait encore à ces politiques controversées. C'est peu de dire que l'affaire s'annonce sensible pour le groupe de télévision qatari Bein, mastodonte de la diffusion d'événements sportifs présents dans 43 pays. Selon des informations du journal Le Monde, son directeur général a été mis en examen pour corruption active par le juge d'instruction Renaud Van Rumbeek. L'information judiciaire ouverte par le parquet national financier viserait l'attribution des championnats du monde d'athlétisme au Qatar. Stéphane Père, bonjour.
Bonjour.
Les magistrats s'interrogent notamment, Stéphane, sur deux versements d'un total de 3,5 millions de dollars.
Oui, deux virements effectués fin 2011. 2011, c'est le moment précis où le Qatar est dans la course pour obtenir deux événements sportifs majeurs, les championnats du monde d'athlétisme 2017 et les Jeux Olympiques 2020. À l'époque, l'homme de la situation pour muscler la candidature de Doha, c'est Nasser Al-Khelaifi, le nouveau président du PSG, et son bras droit, Youssef Al-Obedli, qui est aujourd'hui directeur général de Bein Sport. Alors, dans cette affaire à tiroir très complexe, il faut reconnaître, le juge Van Rumbeek suspecte Youssef Al-Obedli, l'homme de l'ombre donc d'Al Khelaifi, d'avoir indirectement tenté de corrompre l'ex-patron de la Fédération de l'athlétisme mondial, le Sénégalais Lamine Diack. Pour le juge Van Rumbeek, Al-Obedli a viré l'équivalent de 2,5 millions d'euros, donc à fond perdu au fils du puissant patron de la Fédération d'athlétisme. Mais pour l'avocat de Youssef Al-Obedli, que nous avons contacté ce matin, eh bien, le Qatari tentait juste de négocier des droits télé et marketing. Son avocat, donc Jean-Didier Bello.
Mon client ne se dit pas, tiens, j'ai trouvé une société dirigée par le fils, donc je vais verser à cette société, et le fils, sans doute, versera à papa. C'est pas comme ça que ça se passe. Tout le monde désigne cette société Pamozzi, dont le président est le fils Diack, comme seul représentant habilité et qu'il faut traiter avec cette société.
Voilà, alors l'affaire se poursuit. Le directeur général du Bein, vous l'avez dit, est mis en examen pour corruption active. Le Qatar, pour rappel, n'a pas obtenu l'organisation des JO ni des mondiaux d'athlétisme 2017. En revanche, doit remporter l'organisation de l'édition 2019.
Merci Stéphane Père. Alors au-delà de toute cette histoire, rappelons que le Qatar a investi depuis des années déjà des centaines de millions de dollars dans le sport, devenu, on le sait, l'un des vecteurs du soft power et de l'influence qatari dans le monde. Or, même si la diplomatie du sport a toujours été instrumentalisée, l'exemple du Qatar n'en reste pas moins singulier en ce sens qu'il témoigne davantage d'une affirmation de la diplomatie par le sport. Et pourquoi le Qatar a-t-il fait donc le choix de s'orienter vers ce domaine en particulier? Élément de réponse avec Christian Cheneau.
À l'instar de l'économie, des médias ou de la culture, le sport fait partie intégrante du soft power de l'émirat. Depuis une quinzaine d'années, le Qatar dépense des sommes folles pour devenir un acteur influent. Ses investissements sportifs sont gérés par Oryx Qatar Investment Sport, la structure qui possède le Paris Saint-Germain ou encore l'équipementier suisse Burda. Comme dans d'autres domaines, Doha a vu grand et ses ambitions semblent ne pas avoir de limites. L'émirat a ainsi décroché l'organisation de la prochaine Coupe du Monde de football en 2022. Un événement qui va lui coûter une centaine de milliards de dollars d'investissement, car outre la réalisation de 8 stades, cet événement planétaire a permis au Qatar de construire un nouvel aéroport, un métro ou encore un tramway. Les investissements dans le sport ont été conçus pour promouvoir l'image de l'émirat, le faire exister et recycler ses immenses richesses gazières. C'est surtout un moyen d'influence, notamment pour nouer des liens étroits avec les grandes puissances occidentales qui assurent sa sécurité, comme les États-Unis, la France ou le Royaume-Uni. L'émirat est un coffre-fort planté dans le golfe Persique qui attire les convoitises, d'autant plus que le Qatar est aujourd'hui sous pression de ses voisins d'Arabie Saoudite, du Bahreïn et des Émirats qui lui imposent un blocus terrestre et aérien depuis le 5 juin 2017. Bref, le sport pour Doha est une police d'assurance pour se protéger de ses rivaux agressifs qui seront tenus à distance d'ici la Coupe du Monde de 2022.
5 petits mois seulement lui auront suffi à bafouer les droits à la vie, à la santé, mais aussi à la liberté. Voilà ce qui ressort d'un rapport publié hier par Amnesty International, l'ONG qui pointe toutes les mesures prises par le président brésilien d'extrême droite depuis son investiture et qui menace, selon elle, les droits de l'homme. En Argentine, le premier procès pour corruption contre Cristina Kirchner a débuté hier. À 66 ans, l'ex-présidente est mise en examen dans plusieurs affaires en cours d'instruction pour blanchiment, enrichissement personnel, détournement de fonds ou bien encore pour avoir reçu des pots de vin. Alors rappelons qu'en Amérique latine, une douzaine d'ex-chefs d'État ou vice-présidents sont actuellement en prison, en fuite, impliqués ou destitués pour des affaires de corruption, dont le brésilien Lula, de même que les 4 derniers dirigeants péruviens. Et s'agissant justement du Pérou, hier, l'actuel président Vizcarra s'est invité, sans y être invité d'ailleurs, au Congrès pour protester contre la décision d'une commission d'archiver son projet de loi sur la levée de l'immunité parlementaire. Il y aura eu tellement de scandales de corruption ces derniers temps, et pas seulement d'ailleurs l'affaire Odebrecht, que le président estimait que cette immunité devrait pouvoir être levée pour contribuer au changement politique réclamé par la population, mais visiblement les députés, eux, ne l'entendent pas tout à fait de la même oreille. Toute l'Europe devrait avoir les yeux fixés aujourd'hui sur les dernières passes d'armes attendues au Royaume-Uni, premier pays à lancer demain le vote des européennes, sans doute son ultime scrutin sur le vieux continent, avant un divorce obtenu par forceps, toujours embourbé dans les négociations du Brexit. La première ministre Theresa May a enjoint hier, et pour une dernière fois, les députés de la soutenir en offrant notamment des concessions à l'opposition, dont la possibilité d'un second référendum sur la sortie de l'UE. En France, là, les principaux candidats aux européennes tenteront ce soir à la télévision de mobiliser un électorat encore atone et de faire enfin bouger des sondages plutôt stables à 4 jours du vote. La dernière étude publiée place la liste du Rassemblement National à 23,5% d'intention de vote, 23% pour La République En Marche. À bonne distance de ce duel, les Républicains regagnent du terrain en troisième position, suivi par Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, ou dit autrement, et si ces chiffres devaient se confirmer dimanche, eh bien cela signifie que seuls 5 des 34 listes en compétition dépasseraient donc le seuil de 5% permettant d'envoyer des eurodéputés à Strasbourg et Bruxelles. Et c'est très certainement la raison pour laquelle l'heure n'est plus seulement aujourd'hui aux derniers débats et autres meetings, mais aussi aux ultimes ralliements. Alors c'est tout particulièrement vrai du côté des socialistes. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Si samedi dernier encore, François Hollande avait dit qu'il voterait pour la liste où figure des socialistes, sans nommer donc Raphaël Glucksmann, ce matin il a cette fois-ci clairement exprimé son vote en faveur de la tête de liste PS Place Publique. Et puis hier soir, autre figure a sonné la charge, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, lui, a également apporté son soutien.
Oui, c'est le branle-bas combat au Parti Socialiste, avec François Hollande qui est encore une fois monté au front ce matin. Il a accordé une interview en matinale sur BFM TV à Jean-Jacques Bourdin, au cours de laquelle il a expliqué pourquoi il allait voter et même pourquoi, selon lui, il fallait voter en faveur de Raphaël Glucksmann.
Je soutiens la liste socialiste parce que je suis socialiste. Oui, bien sûr, mais il y a aussi et surtout un enjeu européen. Parce que depuis que Jacques Delors avait lancé cette idée, elle avait été reprise, c'est le groupe le plus important qui détermine la personnalité qui va être président de la Commission européenne. Donc ça va se jouer entre le groupe socialiste et le groupe de droite. Donc c'est pour ça que l'enjeu, il est très important.
La semaine dernière, on a pu voir en meeting aux côtés de Raphaël Glucksmann à Rouen, Christiane Taubira. Puis le lendemain à Lyon, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Hier, c'est Martine Aubry qui est montée sur le podium avec le candidat. Et puis hier soir toujours, vous le disiez, Lionel Jospin est sorti du bois en annonçant dans un communiqué qu'il soutenait la liste PS Place Publique. La parole publique de Jospin est extrêmement extrêmement rare. La dernière fois qu'il s'est exprimé, c'était en 2008. Il avait voté, Martine Aubry, pour la direction du parti. C'est dire si l'heure est grave au PS. On a l'impression que tous ceux qu'on a coutume d'appeler les éléphants sont en train de se rendre compte à l'approche du scrutin du risque encouru. Si Glucksmann fait moins de 5% dimanche prochain, sa liste ne décrochera aucun élu au Parlement européen. Dès lors, le Parti Socialiste confirmera, après la présidentielle de 2017, qu'il est devenu une petite formation politique qui ne pèse plus dans le débat public. Et le risque est qu'à brève échéance, il disparaisse des radars de la vie politique française.
Merci Stéphane Robert. À peine une semaine après la reprise de l'aciériste français Ascoval par British Steel, le groupe sidérurgiste britannique va être placé sous administration judiciaire. C'est ce qu'ont annoncé ce matin deux syndicats au Royaume-Uni. Le groupe devrait toutefois pouvoir poursuivre ses activités pendant qu'une réflexion est engagée sur son avenir. Et puis, après Ascoval, mais aussi Ford et son usine de Blankford, c'est au tour de General Electric d'être en difficulté. La branche énergie de la multinationale américaine préparerait un plan social avec la suppression de 1000 personnes sur son site de Belfort. Alors les syndicats qui accusent Emmanuel Macron d'avoir demandé au patron de General Electric de laisser passer les élections pour faire cette annonce doivent être reçus aujourd'hui à l'Elysée. Quant à Bruno Le Maire, il tente tant bien que mal de jouer la carte de l'apaisement. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Le ministre de l'économie a appelé ce matin l'entreprise américaine à ne fermer aucun site en France, mais aussi, je cite, à se réinventer.
Oui, quand General Electric a racheté la branche électrique d'Alstom en 2015, le conglomérat américain s'était engagé à recruter 1000 personnes en France, un engagement fait et mené alors par un certain Emmanuel Macron, ministre de l'économie d'un certain François Hollande. Mais voilà, 4 ans plus tard, GE n'a pas tenu sa promesse. Faute de ne pas avoir assez recruté, l'entreprise a même dû payer à l'État français une pénalité de 50 millions d'euros. GE qui explique ses difficultés par les ventes décevantes de turbines à gaz, EDF restant son principal client en France. De leur côté, les syndicats dénoncent les engagements non tenus de la part de GE, comme par exemple la localisation d'un centre décisionnaire et de pôles numériques industriels qui n'ont finalement jamais vu le jour dans notre pays. Des syndicats qui rappellent également que l'État français est aussi un très gros client de GE dans sa partie imagerie médicale avec de très grosses commandes en cours dans le domaine hospitalier en ce moment. Quant à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, même s'il appelle ce matin les dirigeants à fermer aucun site, concrètement, il ne dispose d'aucun pouvoir. Car même si GE s'était engagé, certes, à supprimer aucun poste il y a 4 ans, les précédents Ford et Whirlpool nous montrent que les entreprises américaines sont prêtes à payer des amendes quand elles estiment que la rentabilité n'est plus au rendez-vous. On l'a encore vu aussi avec de la délocalisation de Whirlpool, passant de la Picardie à la Pologne. Enfin, selon les syndicats, le General Electric aurait déjà provisionné 800 millions d'euros dans l'éventualité d'un plan social.
Merci Hakim Kasmi. 12h48 sur France Culture, l'heure à présent d'ouvrir notre rendez-vous mensuel consacré à l'environnement. Parce qu'après une année 2018 où déjà la pluie s'était fait rare, le manque de précipitations s'annonce a priori dramatique pour la seconde année consécutive. Puis à sec, feux de forêt, culture menacée, nous avons donc choisi de nous intéresser aujourd'hui à cette sécheresse qui menace à nouveau la France, mais au-delà l'Europe tout entière. Solène Cressant, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors depuis quelques jours, 11 départements ont pris des mesures de restriction d'eau dans l'Hexagone. Mais en réalité, les clignants sont au rouge partout, bien au-delà de nos frontières.
Et en France, la pluviométrie est en déficit de 17% cette année, dit le ministère de la Transition écologique. Résultat, la sortie de l'hiver, le niveau des nappes phréatiques n'est pas très satisfaisant, avertit le Bureau des recherches géologiques et minières. Et la situation est inquiétante dans le Berry et le sud de l'Alsace, selon ce même BRGM. Alors pour l'instant, difficile de dire si c'est lié au réchauffement climatique, car les nappes répondent à des cycles. Il n'empêche, les précipitations du mois d'avril sont encore déficitaires de plus de 30%, explique Météo France, de la Normandie au Jura et certains cours d'eau dépendent directement des nappes. En Allemagne, on redoute même une sécheresse pire que celle de l'année dernière. L'Office météorologique s'inquiète de la situation à l'est du pays. Certains champs ressemblent à la savane et la végétation pousse encore moins bien que l'année dernière. En République tchèque, 99% du territoire est touché par la sécheresse. Plus étonnant, en Scandinavie, depuis le mois d'avril, plusieurs centaines d'hectares de forêts et de végétation sont partis en fumée dans des incendies. En Suède ou en Norvège, pas une goutte de pluie au mois d'avril. Dernier voyant rouge au niveau mondial, le premier trimestre 2019 est le troisième plus chaud depuis le début des mesures, après 2016 et 2017.
Merci Solène Cresson. Alors afin de bien comprendre les conséquences directes liées à ce manque de pluie, dont on précisera d'ailleurs qu'il ne peut pas être uniquement attribué au seul réchauffement climatique, direction à présent le département du Nord, pourtant généralement connu pour sa pluviométrie, mais qui aujourd'hui est donc en alerte sécheresse. Lise Verbeek, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Le mois dernier, le préfet du département a pris un arrêté sécheresse, c'était le 9 avril précisément, un arrêté qui surprend donc par sa précocité. C'est d'ailleurs du jamais vu depuis 30 ans. Le territoire aujourd'hui manque cruellement d'eau. En réalité, cela fait même 3 hivers que les nappes phréatiques ne se rechargent plus suffisamment. Et cette situation inquiète en premier lieu les agriculteurs et notamment ce producteur de pommes de terre, Lise, que vous avez rencontré.
Oui, Alain de Kecker est agriculteur depuis 40 ans à Avesnes-le-Sec, ça se trouve au sud de Valenciennes. Il cultive entre autres une centaine d'hectares de pommes de terre.
Alors ici j'ai une parcelle de 20 hectares qui est destinée à être irriguée. Donc ça, ici c'est des pommes de terre, sont des innovateurs. C'est des pommes de terre qui sont destinées à être transformées en frites pour McDo. Quoi.
Et la pomme de terre est très sensible au manque d'eau car l'enracinement est peu profond.
Non, on va essayer de... Normalement il doit y avoir une pomme de terre qui doit être en train de germer quelque part. Ah ben voilà. Là, on a une pomme de terre à plant. Là, c'est un germe. Il va bientôt sortir de terre. La plante n'est pas encore levée. Mais une fois qu'elles sont levées, à partir de début juin jusqu'à la mi-août, on va aller sur des besoins en eau qui vont être grandissants et qui peuvent être certaines journées jusqu'à 6 à 8 litres au mètre carré.
Alors, l'arrêté sécheresse interdit à Alain d'irriguer entre 11h et 17h.
Vous voyez, l'eau va arriver ici. Ça, c'est la bouche d'irrigation, quoi.
Voilà. Pourtant, lorsqu'il ne pleut pas assez, 60% de sa production a besoin de cette eau acheminée jusqu'à ses champs via 2 forages à proximité.
Alors, on l'a bien compris, il est dépendant de cette eau. Quelles sont très exactement les conséquences de la sécheresse sur la culture des pommes de terre, Lise ?
Eh bien, les rendements sont plus faibles, la pomme de terre est de moins bonne qualité, elle est plus difforme, plus petite et elle ne correspondra plus au cahier des charges des industries agroalimentaires.
On a investi. On a acheté du plant, on a mis des fertilisants, on utilise des produits de protection des plantes pour avoir une récolte normale. Si on n'a pas cette récolte-là, le chiffre d'affaires n'est pas atteint et donc les conséquences économiques pour des pommes de terre qui sont contractualisées sont fortes, quoi. Et non compensées par le prix parce que les pommes de terre sont contractualisées. La deuxième conséquence, c'est que lorsqu'on met des fertilisants pour obtenir une récolte normale, si la récolte n'est pas normale, quelque part, ça veut dire qu'on a mal utilisé les fertilisants et les produits de protection des plantes pour un rendement qui n'est pas atteint. Donc ça veut dire que les conséquences environnementales sont également importantes, quoi. C'est-à-dire que comme la production est plus faible, il faut forcément plus de surface pour atteindre la même production. Donc du coup, sur l'environnement, on a eu un impact négatif, quoi. Donc contrairement à ce que beaucoup pensent, l'irrigation... C'est aussi un moyen de protéger l'environnement.
Et l'inquiétude d'Alain est d'autant plus forte que l'année dernière, déjà, ses rendements ont diminué à cause de la sécheresse.
Alors, sachant, Lise, que ce phénomène pourrait bien se reproduire à l'avenir, n'est-il pas possible aujourd'hui de mieux l'anticiper ?
Oui, et c'est d'ailleurs ce que reproche Alain de Kecker à l'État, ce manque d'anticipation. Il faut, selon lui, mettre en place une vraie gestion de l'eau.
Pour moi, c'est un vrai sujet. Par exemple, ici, à quelques kilomètres, on a une sucrerie. Il y a peut-être des choses à réfléchir avec eux, quoi. Voilà, parce que eux utilisent beaucoup de l'eau pour leur process industriel. Cette eau est stockée, il y a certainement peut-être des choses à réfléchir.
Il existe des solutions pour Jacques Blarel, responsable du service production végétale de la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais, mais il va falloir du temps.
Ça peut être de travailler sur des nouvelles solutions de stockage d'eau. Ensuite, il y a un travail qui va peut-être demander du temps, mais c'est peut-être aussi d'identifier des variétés qui soient un peu plus résistante au stress hydrique. Après, il y a aussi un travail qui consiste à utiliser du matériel qui soit plus précis et peut-être un peu plus économe par rapport à l'utilisation de la ressource. Et puis des outils d'aide à la décision qui seraient capables également de préciser un peu mieux les périodes de déclenchement de l'irrigation pour essayer d'affiner aussi les apports en eau pour les cultures.
Et puis de leur côté, les agriculteurs pointent du doigt l'arrêté sécheresse qu'ils jugent injuste parce que, disent-ils, eux consomment moins de 4% de l'eau dans tout le département.
Oui, c'est vrai, et la préfecture le reconnaît. Mais selon Éric Fils, le directeur de la direction départementale des territoires et de la mer, la population ne comprendrait pas si les mesures de restriction ne concernaient pas les agriculteurs et les industriels. Pour autant, la consommation d'eau des ménages reste la plus grosse part dans le Nord, environ 80%.
Aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il faudrait qu'on puisse faire des avancées, pour, si on veut vraiment avoir des progrès importants en termes de réduction de la consommation d'eau. Concrètement, ça pourrait être évidemment de lutter contre les fuites dans les réseaux. Il y a déjà des actions qui sont menées dans le département du Nord dans ce domaine. Le département du Nord n'est pas le plus mauvais dans ce registre, mais on peut encore faire mieux. Et puis, on pourrait imaginer aussi, quand les réseaux sont conçus pour ça, qu'on puisse, par exemple, en période de pénurie, faire baisser la pression dans le réseau d'eau, de façon à amener naturellement les consommateurs à consommer moins. Aujourd'hui, y compris en période de restriction, on n'observe pas de baisse de la consommation des ménages, voire des fois des hausses. Voilà, il y a encore un effort de conviction, de persuasion, d'appropriation de l'enjeu qui est encore en partie devant nous.
L'alerte sécheresse actuelle court jusqu'à fin juin et elle pourrait bien être renouvelée.
Merci Lise Verbeek ainsi qu'à vous Solène Cresson. On termine avec un mot rapide de météo. Une France coupée en deux, tandis que de belles éclaircies s'imposeront sur une large moitié ouest. Un voile nuageux recouvrira le ciel plus à l'est. Quant aux températures, elles atteindront entre 17 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Il y a 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.